Isabelle Bresse.
Sud Radio.
C'est vous.
C'est vous.
Bonjour à tous et bienvenue sur Sud Radio. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va donc parler de la réforme de l'orthographe, une réforme qui ne passe pas toujours, alors qu'elle s'appliquera dès la rentrée prochaine. À l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie, nous avons eu envie de nous pencher sur cette réforme. Tout d'abord, pourquoi décider maintenant de la mettre en pratique alors qu'elle a été proposée par l'Académie française en 1990? L'accent circonflexe est-il vraiment menacé? Quels mots verront leur orthographe menacée? Qui est concerné? Quels sont les arguments de l'Académie française? Et enfin, pourquoi cette révision orthographique fait-elle l'objet de critiques? Eh bien, on en parle dans un instant sur Sud Radio. Et puis, vous pouvez venir nous donner votre avis sur cette réforme au 0 826 300 300 0 826 300 300. Et vous allez voir, je suis avec quatre personnages extraordinaires qui vont bien vous faire rire et vous apprendre beaucoup de choses pendant toute cette heure. A tout de suite sur Sud Radio.
Isabelle Bresse.
Sud Radio, c'est vous.
Et nous sommes de retour sur l'antenne de Sud Radio. On parle de la réforme de l'orthographe, une réforme qui existe depuis 1990, mais dont on parle beaucoup aujourd'hui. Pourquoi 26 ans avant de la mettre en place? Et puis, qu'est-ce qu'elle va vraiment changer? Qui est concerné par cette réforme? Eh bien, on en parle tout de suite avec nos invités. On est avec Thierry Breyer. Bonjour Thierry, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour Isabelle, merci.
Alors, vous étiez en train de fanfaronner que vous étiez membre de DLF. Qu'est-ce donc que DLF? Racontez-nous tout ça. Et parlez bien dans le micro. Je sais qu'on
DLF,
partage les micros.
C'est une association qui s'appelle Défense Langue Française. Effectivement, dedans, il y a Défense. Alors, ça veut dire peut-être que nous sommes attaqués.
Oui.
Mais comme on a quelqu'un ici qui la représente, il en parlera beaucoup mieux que moi.
Oui, mais vous en êtes membre. Alors, vous
moi,
êtes...
je suis délégué, effectivement, pour les Bouches-du-Rhône.
Pour les Bouches-du-Rhône. Et vous êtes également auteur, écrivain.
Oui.
D'ailleurs, vous étiez au Salon du Livre il n'y a pas
oui.
si longtemps. Et vous êtes... plutôt pour, plutôt contre cette réforme? Qu'est-ce
ah,
que vous en pensez?
Moi, je suis plutôt pour, mais surtout qu'au départ, il faut bien remettre les choses en place. Il ne s'agit pas d'une réforme. D'ailleurs, le texte n'a pas été écrit sous cette forme-là. C'est une rectification, une harmonisation, si on veut, mais pas une réforme ni une simplification. Donc, c'est pour ça qu'on peut être pour, à condition de l'avoir lu et de l'avoir comprise. Mais je pense qu'on va en débattre aujourd'hui. Donc, moi, je suis plutôt pour, parce que ça ne simplifie pas, mais ça harmonise beaucoup d'anomalies, beaucoup d'erreurs. Il y a eu beaucoup trop de choses qui ont été mal faites depuis, vous avez dit tout à l'heure, 26 ans, mais en fait, beaucoup plus longtemps que ça. Et aujourd'hui, on en parle parce que le ministre, l'autre jour, a décidé, effectivement, de la faire appliquer un peu plus au niveau de l'éducation nationale. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on utilise déjà depuis 26 ans. Et même malgré vous, vous me disiez tout à l'heure, moi, je veux pas changer mes habitudes, mais ça se trouve, vous êtes déjà dans cette rectification.
Oui, non, mais moi, je suis contre parce que je suis française et que je suis contre. De toute façon, vous me diriez, on réforme pas l'orthographe, je suis contre. Faut la réformer. C'est comme ça.
Sincèrement, on la réforme pas. Enfin, pour mon avis, c'est pas une réforme.
Il y a quand même des choses qui vont changer. Alors, très honnêtement, je sais, comme tout le monde, dans les grandes lignes, à peu près ce qui va changer, mais je pense qu'avec vous, je vais apprendre vraiment, comme nos auditeurs, ce qui va vraiment changer, parce que je pense qu'il y a plein d'idées fausses aussi. Il y a plein de choses qui
tout
ont été véhiculées qui ne sont pas tout à fait justes. On a parlé de l'accent circonflexe. Je pense qu'il ne va pas complètement sauter cet accent circonflexe.
Pas du tout. Hein, pas du tout.
Ah oui.
Pas du tout. Au contraire, il saute par des endroits où ce n'était pas vraiment passionnant qu'il y soit. Et encore que vous avez vu sur Facebook, il y a eu beaucoup de choses amusantes sur le fameux petit jeune qu'on vous laisse faire.
Je vais me taper un jeune.
Et un jeune. Et
que j'ai relayé, hein, je reconnais, ça m'a fait rire.
C'était rigolo. En réalité, justement, dans ce cas précis, parce qu'il y a un risque de confusion, l'accent reste sur le U, il n'y a pas de problème, comme sur sûr, comme sur mur. Non, justement, le texte est un peu complexe. Moi, je l'ai ici, fait près de 40 pages.
Oula.
Donc, j'admets que c'est complexe, mais par contre, on a des raccourcis qui sont d'une dizaine de pages, qui sont quand même plus sympas et qui méritent d'être lus.
Alors, avec nous aussi, Alban Orsini. Bonjour Alban, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour, merci de l'invitation.
Vous êtes auteur de Avec Maman, qui est le premier roman rédigé en SMS.
C'est ça.
Attention, je pense qu'ils ont des kalachnikovs.
J'en ai trois contre moi, c'est terrible. C'est un piège en fait.
Et franchement, je l'ai lu, je me suis bidonné du début à la fin.
Merci.
Parce que c'est vrai qu'écrire, déjà c'est une prouesse, écrire un roman en SMS, bravo.
Merci.
Comment vous avez eu l'idée de ça?
Alors l'idée en fait est venue du premier SMS, qui est le premier SMS du livre, qui est le seul vrai SMS, qui est donc le SMS que m'a envoyé ma mère en fait, qui s'est acheté un smartphone. Et le premier SMS c'était donc voilà, elle faisait un test. On n'a jamais plus communiqué ensuite par SMS, et je trouvais que visuellement on avait là tout de suite que deux générations n'avaient pas forcément le même langage, et que visuellement ça, ça marchait comme ça et qu'on pouvait peut-être éventuellement bâtir une histoire à partir de cette différence.
Moi, je suis partie de ces gens qui, quand ils envoient un SMS et je vois que les youtubeurs, les jeunes youtubeurs, les idoles de mes enfants se moquent beaucoup des gens de ma génération et ce n'est pas très chrétien quand même de leur part. Moi, quand j'écris un SMS, j'écris tous les mots et je fais attention de ne pas faire de faute d'orthographe. Et quand j'ai un doute, je vais voir, je vais vérifier.
Je suis pareil, alors que pourtant j'ai commencé la génération SMS avec les Nokia sur lesquels on était facturé à la longueur du SMS, donc il fallait qu'on...
Ah non, moi avec les Nokia, je joue au serpent.
Oui, moi aussi. Et donc voilà, donc j'ai quand même grandi avec cette idée qu'il fallait tout compresser, mais avec le temps, bizarrement, je suis pareil que vous, c'est-à-dire que j'aime écrire des SMS en français, entre guillemets, avec un point à la fin, et voilà, et pareil, je corrige mes syntaxes si je fais une faute. Donc,
c'est ça, moi, quand je fais une faute, si j'ai envoyé le SMS,
pareil,
je renvoie un SMS en corrigeant ma faute, des fois qu'on pense que j'ai fait une faute orthographe.
Je suis pareil que vous, donc...
Oui.
Parler dans le micro,
c'est... Le point à la fin, c'est plein de sens et de sous-entendu.
C'est qu'on est méchant, je crois, ou cynique. Enfin, il y a eu un texte là-dessus.
Le vendredi, Jean-Marc, on parle d'amour. Et justement, il n'y a pas longtemps, on parlait des messages qu'on envoyait. Et alors, il paraît que les trois petits points, quand on envoie des messages, c'est lourd de sous-entendu. Et alors, moi, je mets tout le temps trois petits points. Simplement parce que je ne sais jamais comment terminer mon SMS ou mon message. J'ai mis trois petits points. Je dis, mince, tous les gens
Céline faisait pareil.
Écoutez,
ça serait un bon titre de roman en tout cas, trois petits points.
Trois petits points et puis s'en vont. C'est le titre de votre prochain roman.
Okay.
D'accord ? Et alors vas-y, top, c'est parti. Thierry, va falloir nous écrire un roman à partir de là.
C'est plein de sous-entendus, mais c'est très drôle.
Et un roman en SMS.
Non, mais par contre, non, je critique pas. On va pas détruire mon voisin de droite tout de suite.
Mais non, mais il est tellement gentil. Non,
en vérité, non, c'est très drôle. C'est une figure de style et on va pas non plus dénigrer Georges Perec qui avait fait pas mal de figures de style et puis...
Non, et puis c'est
génial.
Comment ça s'appelle là ? C'était qui ? C'était Verlaine qui écrivait en...
Apollinaire, les Caligari.
Apollinaire, voilà, c'est ça. Oui, oh, ça va. Faut que je fasse gaffe là, aujourd'hui. Hein. Je peux pas dire n'importe quoi parce que là...
De toute façon, pour aller dans son sens...
Parler dans le micro.
On apprend aux gosses à retenir un SMS vieux de 800 ans. Parce qu'on explique aux gosses que je peux, il faut un X et je finis, il faut un S. En parenthèse, si le gosse demande pourquoi, on lui dit parce que si tu retiens pas, t'es idiot. On se demande pourquoi ils aiment pas l'orthographe. Mais si on met un X à je peux, les troubadours, ils disaient je peux et ils écrivaient P-E-U-S. Mais les juristes du 13e siècle, ils faisaient des SMS, ils abrégeaient le US en X. Quand un juriste écrit du 13e siècle a écrit je peux, il mettait P-E-X. Alors plus tard, quand on a remis le U, ben on a gardé le X comme on était habitué. Donc on critique les gosses qu'il faut des SMS, on les oblige à retenir un SMS du 800 ans.
Bonjour Bernard Fripia, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes coach en orthographe et auteur de l'orthographe 99 trucs pour en rire et la retenir aux éditions Gunton. Donc on l'aura compris en vous écoutant. C'est pas du tout un livre chiant. Hein. Mais alors,
c'est pas le but en tout cas. Non, c'est pour rigoler.
C'est un livre pour rigoler, mais où on apprend
plein de choses.
Là, j'ouvre au hasard, par exemple, la différence entre colon sans accent circonflexe et colon avec un accent circonflexe.
Alors, voilà, déjà, à chaque fois, on donne un petit truc pour le retenir.
Voilà. Alors, ça, le colon sans accent circonflexe, c'est l'habitant d'une colonie, du latin colonus, et le colon. Alors, moi, je viens du sud, alors les accents circonflexes, de toute façon, je les prononce jamais.
On les prononce plus, personne ne les prononce, hein, ils sont en voie de disparition.
On est censé dire colon avec l'accent circonflexe.
Ça, c'est très théorique. Hein. En plus, en Belgique, on a résolu tous les problèmes depuis longtemps.
Et c'est une partie.
Parfaitement monsieur.
Moi, absolument.
Monsieur, c'est une partie de l'intestin et ça vient du grec.
Ben voilà. Oui.
C'est l'intestin voilà.
comme pas mal de mots français.
Voilà. Bah, ouais. Cher beau-père, votre qualité d'ancien colon ne vous empêche pas de souffrir aussi du colon.
Oui, c'est les petites dictées cruelles qui rentrent les sympathies.
Eh oui, c'est ça. Alors, d'où ça vous est venu, Bernard, cette passion? Parce que c'est une passion, là, pour l'orthographe.
Ah, ça l'est devenu, hein, Ben, en fait, à l'origine, je corrigeais les gens dans des concours et tout ça. Et puis, finalement, ben, j'ai créé une petite méthode. On a commencé la vente en entreprise. Ça a bien marché. Et puis après, bon, ben, on en a fait un bouquin. Et on en a fait une web-série aussi.
Orthographe.com.
Donc, c'est 110 sketchs sur l'orthographe où on rigole avec ça et chaque fois bon voilà les petites difficultés mais c'est plus des, là le colon c'était pour le gag hein, mais mais c'est plus des petites difficultés que les gens rencontrent. AIYS, ouais, j'irai AIYS, ou tous ces petits trucs-là. Bah, quoi.
Je sais, moi. AIS conditionnel, AI futur.
Ben oui, mais le problème, bah, c'est quand c'est le conditionnel, quand c'est ça. Parce que
si
je veux.
Mais si.
Mais pas toujours, hein, parce que si je veux, j'irai au cinéma, il y a une condition, il faut pas d'S. Hein. Ah, le petit truc pour ça, c'est de mettre à il. Si on entend A, c'est AI, si on entend S, AIS. Si je veux, j'irai au cinéma, s'il veut, il ira. Eh ben, c'est un futur. Si je voulais, j'irai, s'il voulait, il irait, c'est un conditionnel.
Voilà.
Bon, alors, c'est des petits trucs comme ça. Et puis après, avec des nuances, parce que l'ordinateur ne le voit pas, celle-là. Hein. Si vous dites, j'aimerais mieux manger des frites que des petits pois. Bon, logiquement, en France, on dira, il aimerait mieux manger des frites que des petits pois. Sauf que, on peut aussi dire, il aimera mieux manger des frites que des petits pois. En Belgique, c'est ça qu'on dit, parce que si on fait des petits pois, c'est la guerre.
Et oui.
Évidemment, l'ordinateur, il ne sait pas la nuance que vous mettez dans ce que vous voulez dire. Voyez, donc il ne nous aide pas.
Ça.
C'est des petits trucs comme ça
non,
qu'on
mais parfois,
donne. Parfois,
l'ordinateur, de toute façon, il nous corrige n'importe quoi. Vous écrivez un mot correctement, il vous met un mot qui n'a rien à voir. Vous relisez
oui,
pas,
oui.
Vous envoyez. Alors là, c'est la fin
et
des
c'est
haricots.
Parfois,
hein.
Parce que justement, le correcteur orthographique a intégré la réforme et a oublié que les deux orthographes étaient bonnes. Hein.
Oui, si j'aurais su, j'aurais pas venu.
Absolutely.
Et on est également avec Jean-Marc Schreder. Alors attention, lui, c'est le patron. Il est administrateur de DLF, donc Défense de la langue française.
Bonjour Isabelle.
Et alors, vous allez nous parler d'une chose qui m'intéresse moi particulièrement parce que ça me fait bondir, c'est la notion d'orthographe dans les médias.
Très volontiers.
Ah oui, ça
très
vraiment, je tiens à ce qu'on aborde ce sujet-là parce que moi ça me rend folle. Je ne suis pas si vieille que ça, mais quand j'ai commencé à travailler à la télévision, j'avais un rédacteur en chef qui passait derrière moi, qui me corrigeait. On ne laissait pas passer n'importe quoi à l'antenne. Quand la script tapait un truc, il y avait quelqu'un derrière pour corriger. Aujourd'hui, j'ai envie de me pendre. Hein, non, mais franchement, quand j'entends des journalistes dans un sujet dire ils sont montés sur Paris, ils sont allés au coiffeur ou je ne sais quoi, c'est à devenir fou.
Alors, nous avons parmi nos administrateurs Jean-Pierre Collignon, qui est professeur dans des écoles de journalisme et qui a eu l'occasion d'aller voir comment ça se passe dans les télévisions quand il y a des bandeaux.
Oui.
Et que souvent, nos adhérents ou n'importe quel Français amoureux de la langue bondit sur son fauteuil quand il y a des fautes.
Notamment sur les chaînes d'information.
Voilà,
les chaînes d'information,
des JT de 20h, les grands messes de 20h souvent.
Bon. Voilà.
Et Jean-Pierre Collignon nous a dit, là, il faut être un tout petit peu indulgent parce qu'ils font ça vraiment maintenant, tellement à l'arrache et tellement de façon pressée et paniquée que, bon, on peut comprendre que... D'ailleurs, parfois, ils ont le temps de le corriger deux secondes après.
J'avais lu un article qui disait... C'était l'interview d'un stagiaire qui venait d'arriver sur une chaîne d'information et le stagiaire disait qu'il est arrivé. Deux minutes après, oui. On le collait derrière le truc de l'AFP qui arrivait et on disait, tu balances les infos. Alors, on ne disait pas quel genre d'infos il devait balancer. Donc, il balançait ce qui lui paraissait important.
Ça a peut-être changé par rapport à ne serait-ce qu'il y a 20 ans ou 30 ans où c'est maintenant des délais qui sont devenus de la folie, de la frénésie. Quoi.
Oui, et puis il y avait pour le coup, là je sais vraiment de quoi je parle, j'ai vraiment vu les choses évoluer. Il y a 20 ou 25 ans, on avait des rédacteurs en chef. Quoi. Ouais. On avait des gens qui nous passaient derrière et qui surveillaient ce qu'on écrivait, ce qu'on disait, tout. Il n'y avait rien qui passait à l'antenne sans que ce soit surveillé. Là aujourd'hui, c'est vraiment plus le cas. Hein. C'est vraiment pas...
J'ajouterais que ça me fait plaisir qu'au bout de 2 minutes, il fasse une erreur sur les bandeaux, parce qu'au bout de 4 minutes, ce bandeau, il est recopié chez moi, et je le mets sur mon site francographie.fr, où je répertorie mais toutes les erreurs des médias, en l'occurrence, et c'est vrai qu'il y a des pains incroyables. Et sur ce site, j'ai déjà près de 600 articles.
C'est francophonie.fr?
Francographie.fr.
Francographie.fr,
sur lequel il y a déjà 600 articles, et j'en ai à peu près une cinquantaine en attente. Et tout à l'heure, je suis arrivé par Charles de Gaulle Étoile à pied jusqu'ici, j'avais le temps, j'ai encore fait une dizaine de photos d'erreurs et d'anomalies. Alors, il n'y a pas que les bandeaux des radios, il y a plein de choses. Et encore, je ne m'intéresse pas tellement à la télévision et aux médias. Donc,
nous, à la radio, on est un peu protégés parce que par définition,
il n'y a pas de bandeaux,
on ne fait pas de faute d'orthographe.
J'enregistre.
Et faute de français, alors, je trouve aussi qu'à la radio, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres, mais il y a beaucoup moins de fautes de français qu'à la télévision. À la télévision, c'est un festival.
On est à DLF en particulier, donc l'association Défense de la langue française, on tient une vigie des médias et on invite tous ceux qui veulent le faire à nous communiquer les fautes de la part des professionnels, comme Isabelle Bresson entre autres, mais je ne l'ai pas encore épinglée.
Mais je fais attention.
Ça s'appelle stresser les gens.
Oh non, il me stresse pas. Moi, celle qui me stresse, c'est ma mère. Vous savez, elle écoute et puis elle m'envoie des messages. S'il fait une faute, elle me fouette quand je rentre.
Non, mais les présentateurs, les animateurs, normalement, sont censés être des professionnels de la langue et connaître les H aspirés et connaître les règles,
mais en direct,
d'accord,
parfois,
et connaître les liaisons. Et connaître
non,
les
ça
les
peut. Ça, il m'est arrivé des liaisons mal à propos, comme on dit. Mais sincèrement, c'était pas parce que je ne savais pas. C'est parce que en parlant vite, etc.
Ça s'explique, voilà. C'est pour ça. Par contre, effectivement, à partir de l'instant où c'est écrit, donc au vu de tout le monde, là, c'est vrai que ça aurait dû être corrigé, lu et relu. Et même pour les bandeaux, il suffirait qu'ils soient deux. Hein. Il y en a toujours un qui a au moins la bonne réponse. Hein.
Et moi, il y a un site, il y a une application que j'ai sur mon téléphone. Je ne la nommerai pas, mais qui me rend folle. Je vais vous la montrer. Elle me rend folle parce que je pense qu'il y a une faute tous les mots, une faute de français ou une faute d'orthographe tous les mots. Alors, c'est pratique parce qu'effectivement, on a l'info qui arrive tout de suite, etc. Ça parle pas mal de télévision et tout, donc c'est hyper pratique. Mais sincèrement, ça m'arrache les yeux. Hein.
Mais Isabelle, ça ne fait que refléter ce qui se passe avec cette réforme, enfin, ces rectifications orthographiques. C'est-à-dire qu'en réalité, les gens s'en foutent un peu. Pardonnez-moi le gros mot.
C'est ça, oui.
Alors, c'est des levées de boucliers, mais c'est très paradoxal, parce qu'à côté de ça, les gens écriront n'importe quoi, sans y attribuer beaucoup d'importance. Moi, j'ai toujours entendu l'orthographe, c'est la science des ânes. Toute mon enfance, toute mon adolescence.
Après, je pense qu'il y a quelque chose au niveau de l'information qui arrive très vite maintenant via les réseaux sociaux. Et justement, sur les réseaux sociaux, c'est un endroit où l'orthographe n'a bizarrement plus cours, parce que l'information appartient à tout le monde. Et je pense que, par exemple, l'application que vous venez d'évoquer.
Vous voyez de laquelle je parle.
Bien sûr. Oui. Et typiquement dans ça, en fait, c'est-à-dire que l'information doit arriver le plus vite possible pour faire du buzz. Donc c'est ce qu'a créé les réseaux sociaux.
Non, mais là clairement ils savent pas écrire le français. Hein.
On est d'accord.
Là clairement c'est pas des fautes d'inattention. Là ils ne savent ni le parler ni l'écrire. Hein.
Mais
ça, c'est
on
sûr.
Est encore une fois dans un système qui est très rapide d'information et qui est de plus en plus tend vers le réseau social.
On continue à parler de cette réforme de l'orthographe, ce qu'elle a de bon, ce qu'elle a de mauvais. Visiblement on est tous d'accord hein, finalement.
Quoique.
Moi je suis contre.
Bernard est contre.
Moi je suis contre.
Battu.
La Belgique est contre.
On est avec les Belges, nous, de toute façon. Voilà. Encore plus depuis hier, on est avec les Belges. En tout cas, si vous voulez venir nous rejoindre en direct sur l'antenne de Sud Radio, nous dire et participer à cette discussion sur la réforme de l'orthographe, n'hésitez pas. 0 826 300 300 sur mon horloge, il est 21h21. Autant vous dire que on est ensemble toute la nuit. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio,
c'est vous.
C'est vous.
Isabelle Brasse.
Et nous sommes de retour, nous parlons de la réforme de l'orthographe qui a été proposée par l'Académie française en 1990, mais dont on parle beaucoup aujourd'hui, 26 ans après. Pourquoi, comment, ce que ça va changer? Eh bien, c'est le thème de cette émission. Mais lundi prochain, c'est Pâques, et toute la semaine, je vous offre sur l'antenne des œufs du chocolatier Yves Turiès, meilleur ouvrier de France. Pour recevoir le coffret, il suffit de nous appeler au 0826 300 300 0826 300 300. Ils sont tous en train d'appeler là en face de moi, mais vous n'avez pas le droit de jouer, vous savez. Et vous avez un coffret à gagner, donc à chaque heure, dans la première heure et dans la deuxième heure, un coffret Yves Turiès, meilleur ouvrier de France, à gagner. 0 826 300 300. Je suis toujours avec Thierry Breyer, auteur du Rabot de Louis 1768-2001, roman. Ça fait beaucoup hein, il a vécu longtemps lui hein.
Ils étaient plusieurs.
Ah d'accord. Alors racontez-nous ce roman, de quoi ça parle?
Ce roman, c'est l'histoire d'une famille de anti-héros sur 9 générations, d'où les dates qui paraissent un peu folles pour des dates de naissance.
Ils s'appellent tous Louis?
Non, ils s'appellent pas Louis. Peut-être d'accord. Que le premier s'appelle Louis, ensuite on avance. Et puis ils sont anti-héros parce qu'ils traversent les époques à travers les faits divers, à travers la vie normale, à travers les choses, on a envie de dire banales, mais en fait, en réalité, c'est un peu nous. Donc ce sont des gens que j'apprécie beaucoup.
Thierry, quand on écrit, on est très attaché à l'orthographe.
Complètement attaché au vocabulaire. Moi, je suis coach en écriture, donc je suis attaché à tout ça. Mais c'est pas le fait de. On n'écrit pas simplement pour être bien.
Je vous pose la question parce que je connais assez bien Bernard Werber, qui est nul en orthographe. Pourtant, on peut pas dire qu'il vend pas de livres. Hein, pourtant, Bernard Werber, qui a donc écrit Les Fourmis, que vous connaissez tous ici, et il est nul en orthographe. C'est vraiment un truc, ça ne l'intéresse pas. Il se fait corriger.
Mais tout à fait. D'ailleurs, c'est très positif. On doit se faire corriger si on peut pas. Moi, je suis pas forcément.
Il va m'engueuler s'il m'entend.
Exceptionnel.
Il a pas envie que je le dise.
Non, non, mais au contraire, on se fait aider. Mais le but du jeu dans l'écriture et dans un roman, c'est pas d'écrire bien pour dire on a bien écrit, c'est parce que c'est un plaisir de trouver des mots, du vocabulaire, des tournures, des phrases cultes, etc. C'est ça l'auteur, et c'est un artiste normalement. C'est pas simplement raconter une histoire. Et puis effectivement, si on a des lacunes en orthographe, bah, y a mon voisin de gauche. Si on a des lacunes en écriture, si on a des lacunes pour faire la couverture, on se fait aider, au contraire.
C'est vrai. Donc,
c'est pas un souci. Hein.
Moi, je sais que ma mère était nulle en orthographe jusqu'à très longtemps parce qu'elle a arrêté l'école très jeune. Et puis qu'un jour, sur le tard, elle avait peut-être 50 ou 55 ans, elle a décidé de s'y mettre. Et à 50 ou 55 ans, elle a commencé à apprendre à écrire correctement le français. Alors ça, c'est pas mal aussi, parce que c'est vrai que quand ce sont des automatismes qu'on a depuis très jeune, je vais poser la question par exemple à notre ami Bernard. Bernard, quand on a des automatismes, j'imagine c'est plus simple de les avoir jeunes que de les acquérir.
Plus on l'apprend, jeune, mieux c'est. Hein. Cela dit, je n'avais pas une très bonne orthographe au début à l'école. Hein. Ça s'est amélioré parce que j'ai croisé un bon prof. Quoi. Ouais. Parce que j'ai une mémoire visuelle très faible. Alors du coup, quand je mets deux mots côte à côte, ça ne me faisait rien. Alors lui, il me l'a fait remarquer.
Moi non plus, ça ne me fait rien. Sauf
ouais, c'est ça, donc ça ne gênait pas. Alors il m'a dit, tu mets les mots dans un répertoire puis tu trouves un truc débile pour les retenir. Par exemple, pantoufle, il n'y a qu'un nez parce qu'on est toujours en train de chercher l'autre, voyez. À compte, il n'y a qu'un C parce que quand on en a un, on est tellement étonné de l'avoir qu'on n'ose pas en demander un deuxième. Voyez, des trucs comme ça. Quoi. Pour Jartel, il faut un trait d'union, sinon ça tombe. Enfin, vous voyez, il y avait tous des trucs comme ça. Et alors, le mec, il m'a vraiment fait ça. Il m'a dit, tu écris le mot, tu trouves un truc débile. Et en fait, bah, d'abord, ça a amélioré l'orthographe, mais bah, j'ai aimé ça, quoi. Évidemment, ça devenait marrant de trouver des trucs débiles. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est venu. Mais c'est la chance d'avoir rencontré un bon prof de français, quoi. C'est ça qui fait.
Sont ces trucs-là que vous donnez dans votre livre?
Ah, oui, oui, bien sûr. C'est tous ces trucs-là. Et alors, beaucoup des problèmes que les gens rencontrent, quoi. Par exemple, le pronom nominal, hein, c'est la torture number one. Hein. Nous nous sommes téléphonés, il ne faut pas d'est, nous nous sommes regardés, il en faut un. Alors, c'est à quoi la bannière?
Oui, ça, alors moi, je ne fais pas la faute parce que ça me vient naturellement, mais mon fils m'a demandé l'explication et j'étais incapable.
Il y a un truc, hein, dans orthographe.com, il faut lui montrer le sketch 90-90 s'il veut aller en Belgique. Hein. Et alors, en fait, c'est je lui. Si vous prenez la phrase en partant de je, si vous dites je le, vous accordez, je lui, vous n'accordez pas. Nous nous sommes téléphonés, on dit je lui téléphone, on met pas d'S. Nous nous sommes regardés, je le regarde, on met un S. Nous nous sommes fait une nouvelle tête, on dira je lui fais une nouvelle tête, on met pas d'S. Nous nous sommes fait complice, on dira je le fais complice, on met un S. Et c'est fini.
Oh, j'ai la tête,
ça prouve qu'il y a pas mal de solutions. Moi, j'ai une autre solution aussi pour elles se sont coupées.
Et ES,
mais elles se sont coupées les cheveux.
Ouais.
Et elles ont coupé quoi les cheveux? À qui? À elle.
Ah ouais, on fait un quiz. Ouais. Allez-y, j'adore
ouais,
les
et
quiz.
Et puis avec le ça fait je le coupe en deux, je lui coupe les cheveux.
Jean-Marc, posez-nous des questions, on doit répondre.
Ah, c'est Michael Borol.
Ah oui, nous on doit répondre, on passe pour les imbéciles.
On n'a pas de buzzer.
Camus était un fan de football. Quelle équipe aurait soutenu Albert Camus? Vous écrivez comment soutenu?
Aurait soutenu.
Les deux auraient un sens, mais celui d'Isabelle est quand même le sens le meilleur.
Ouais. Bravo Isabelle,
bravo, bravo. Moi je botte en touche et je demande le correcteur de Bernard Werber, hein, personnellement.
Il va me tuer, s'il écoute l'émission, il va m'envoyer un message et me dire oh, mais t'es folle, faut pas dire ça. Mais ce qui n'enlève rien au talent, et en fait je pense que quand on a beaucoup d'imagination, d'ailleurs vous le dites au début de votre livre, vous dites l'orthographe n'est pas une question d'intelligence, c'est juste une question de mémoire.
Ah oui, tout à fait, moi je connais des cons qui font pas de faute, hein. Ça, pas de problème, hein, ça n'a rien à voir. Hein.
Oui,
quelque part ça rassure, mais il n'y a pas d'excuse. Hein. C'est ça le problème, parce que en général les personnes qui ont une... non, c'est pas parce qu'on a une mauvaise orthographe qu'on est idiot, mais il suffit de le retenir, quoi. Tu sais, la personne qui vous dit ce mot-là, je ne le retiens jamais, bah, qu'est-ce que t'attends pour étudier la cueillette des fraises? Étudie et tu le sauras. Donc quelque part, c'est voilà, ça culpabilise un peu, quoi.
Alors Isabelle, puisque vous êtes si forte,
ça y est.
Dommage. Pour revenir sur cette réforme, cette rectification.
Oui.
L'orthographe d'avant, les après-midi, on met quoi à la fin?
Alors moi j'aurais mis un S à la fin d'après-midi.
Eh ben,
non, il n'y avait pas.
C'était invariable.
Invariable.
Les après-dîners, on mettait quoi avant?
Oh ça va Nicolas. T'aurais mis quoi toi Nicolas Castilla à la fin d'après-midi?
Ben, les après-midi on mettait un S. Et pas les après-dîners on mettait un S.
En revanche quand on dit tous les lundis, tous les dimanches, on met un S à la fin.
Oui, et là j'y garde celui-là.
Oui.
Mais après-midi, normalement était invariable si c'était après le midi. Alors maintenant ils ont décidé de mettre un S au au deuxième.
Masculin ou féminin?
Ah bah alors là, l'académie était en pleine forme. Elle dit masculin ou féminin, mais on doit préférer le masculin. Elle pourrait pas se décider une fois pour toutes cela quand même. Alors moi, personnellement, quand je fais un roman, je le mets une fois au masculin, une fois au féminin. Une fois au masculin, une fois au féminin. Elle a pas dit qu'on pouvait pas, je le fais.
Voilà, c'est ça. Moi, le truc qui me perturbe aussi, c'est la féminisation des métiers. Oh, auteur, écrivain, avocat, etc.
Ah, oui, là.
Alors, il y a eu un article très intéressant là-dessus, en fait, apparemment. Alors, je suis pas un spécialiste de l'orthographe, hein, et apparemment, ça viendrait de
Richelieu. Non, vous écrivez en SMS,
vous. C'est ça. apparemment, ça viendrait de Richelieu, en fait. On disait autrice auparavant.
Alors, moi, j'ai jamais entendu autrice, mais je peux pas jurer. Hein. Cela étant dit, on a une discrimination masculine, comme on est majoritaire, on peut le dire. Parce que regardez.
Sage-femme.
Oui, mais c'est pas ça, c'est ambassadeur. Si vous dirigez une ambassade, vous êtes madame l'ambassadeur. Si vous épousez un ambassadeur, vous êtes madame l'ambassadrice. Bon, d'accord, pourquoi pas. Mais je fais quand même remarquer que si vous épousez un ambassadeur, vous êtes madame l'ambassadrice. Et nous, si on épouse une femme ambassadeur, eh ben, on n'est rien. Homme objet, version Quai d'Orsay. On existe, on n'est rien, une plante verte dans un coin. Et voilà, et ça, personne ne dénonce.
Pourquoi d'ailleurs il n'y a pas de réforme là-dessus, en fait? Parce que personnellement, moi, un accent circonflexe ou pas, je m'en fiche un peu. Par contre,
ça dépend, parce que le jeune, on en parlait en début d'émission. J'ai envie de me faire un petit jeune avec un accent circonflexe, ça veut dire que j'ai pas envie de manger, j'ai envie d'arrêter.
Mais du coup, dans les débats sociétaux d'actuels sur justement la misogynie ou quoi que ce soit, pourquoi justement on ne rétablit pas en tout cas ces mots-là, qui sont des mots forts.
On pourrait mettre des féminins. Alors c'est l'académie qui décide, et c'est vrai qu'ils sont parfois bizarres parce qu'ils disent madame la directrice, mais madame l'ambassadeur. Pharmacien, la pharmacienne, c'est pour l'académie, et c'est celle qui dirige une pharmacie.
Je voudrais pas dire, Bernard, mais oui. Ça doit être un beau bordel à l'académie quand ils décident de changer.
Ah oui, surtout que c'est mixte maintenant. Et puis bon, sage-femme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors une thèse qui existait avant, c'est de décider qu'un mot est masculin ou féminin. Par exemple, sentinelle, c'est féminin. Donc à la limite, vous avez un légionnaire bien arrangé dans un coin, vous dites la sentinelle, venez là, il va pas choquer. On peut dire, je suis une nouvelle recrue, ça choque personne. Donc il y avait cette thèse-là. Bon, maintenant en féminin, ça peut être marrant. Maintenant, c'est vrai quand même que parfois, maître, féminin, maîtresse, ça peut être ambigu dans certains tribunaux.
Il y a une faute qui revient souvent, ouais. C'est mannequin. Un mannequin.
Oui. Mannequin.
Normalement, un mannequin, c'est un mannequin.
Et
sur le fameux site dont on parlait tout à l'heure, une mannequin.
Et une membre.
La féminisation, il y a aussi un petit souci qui est arrivé quand moi j'étais à l'école, c'est qu'on nous avait dit le masculin l'emporte sur le féminin. Donc ça a été une règle absolument incroyable. Évidemment, un garçon, 25 filles, j'étais plus fort. Mais en réalité.
Mais comment vous étiez un garçon pour 25 filles, mais... déjà vous
Je sais, c'était un autre sujet.
Il va falloir qu'on en parle, oui.
Mais en l'occurrence, cette phrase était absurde parce qu'en fait, c'était le masculin qui assimilait au neutre. En fait, on a perdu l'idée du neutre en français qu'on a dans d'autres langues. En fait, c'est vrai qu'on a donné donc présidente, directrice, alors que madame le directeur, madame le président, c'était quand même plus simple. Comme s'il fallait en plus, au nom de métier, lui donner un sexe qui n'était pas utile. Alors bien sûr, la féminisation fait qu'à un moment donné, on va remettre dans l'autre sens les mots.
Je me rappelle d'un sujet que j'avais fait pour TF1 où il y avait une avocate qui était dans le sujet, comme je ne savais pas lequel utiliser. Un coup, je disais un avocat, un coup, je disais une avocate. Et Étienne Moujotte, qui à l'époque était mon patron, m'avait appelé en disant, bon, faut savoir, une avocate ou un avocat?
Mais oui, mais on sait pas.
On continue à parler de cette réforme de l'orthographe dans un instant sur Sud Radio, bien sûr. Et toujours, c'est chocolat Yves Turiès à gagner, 0826 300 300 pour les gagner. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, c'est vous, Isabelle Bresse.
Et c'est Patrick de La Sérade qui a gagné ce coffret de chocolat 2 du chocolatier Yves Turiès, meilleur ouvrier de France. Et oui, dans une semaine, c'est Pâques, et vous le savez, une fois par heure, je vous fais gagner ces œufs de Pâques Yves Turiès. Bravo à Patrick, donc on vous embrasse bien fort et on continue à parler de cette réforme de l'orthographe et on se marre bien finalement, parce qu'il n'y a pas mort d'homme quand même, faut pas exagérer.
Pas encore.
C'est une épine dans le pied l'orthographe.
Mais oui. Tout, hein. Jean Jean-Marc Schreder de DLF, Défense de la langue française, en quoi elle consiste exactement et qui elle va concerner, surtout cette réforme de l'orthographe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, tout de suite de la rentrée, on n'aura plus le droit d'écrire certains mots, tout le monde?
Alors, est-ce qu'on aura le droit d'écrire à contre-courant? Vous mettez quoi, vous? Un trait d'union ou en un seul mot?
Mais ça, Thierry Breyer...
Bien joué.
Faut que je réponde au téléphone, excusez-moi.
Moi, j'ai piscine, pardon.
Bernard, il le sait.
Moi, je mets un trait d'union.
Mais moi, je vous répondrai autrement bien, tout à l'heure.
Alors, à contre-courant, trait d'union, à contre-sens?
En un mot.
En un mot.
En un mot,
il y a une logique
voilà.
Là-dedans quand même, Bernard.
Mais non, il n'y en a pas. Mais je suis d'accord qu'il n'y en a pas. Mais l'ordinateur le voit. C'est ça mon problème avec ça. J'aurais été pour la réforme en 75,
micro,
parce qu'à l'époque, quand la secrétaire tapait un truc, si elle faisait une faute, il fallait tout recommencer. Mais maintenant, vous oubliez le trait d'union, la machine vous dit qu'il y en a un, vous le mettez trois fois, vous l'avez retenu. Donc maintenant que ça ne nous embête plus, allez, on le simplifie. Ça va compliquer et tout, hein.
C'est pas qu'on simplifie.
En plus, qu'on peut faire les deux.
On harmonise les séries désaccordées.
Mais Jean-Marc, il a raison, Bernard. Bernard, il soulève un vrai problème. Quid des correcteurs automatiques?
Ah ben, ils vont faire fortune, ils vont pas refaire leur bec. Et puis, il y a intérêt à avoir le même que celui du patron. Hein.
Alors, le correcteur informatique, justement, alors d'abord, Word, pour pas le citer, est un petit peu hypocrite sur l'affaire, mais il est connu. Il est un peu hypocrite sur l'affaire parce que le dictionnaire, par défaut, souvent, est configuré sur les deux. L'orthographe. Donc ça veut dire qu'en plus, quand on va écrire, on va mélanger les deux graphies. Je trouve pas ça génial, mais bon, on le fait. Maintenant, il y a aussi des correcteurs supplémentaires. Moi, j'en utilise. Ils sont là aussi pour nous aider. Ce qui fait que connaître les règles par cœur, c'est une chose. Mais moi, je préfère dire aux personnes avec qui je travaille, retenez qu'il y a un problème. Alors, vous savez pas quel problème, mais retenez qu'il y a un problème et sachez le retrouver dans vos bouquins.
C'est quand même plus simple de se dire j'ai un porte-monnaie dans ma poche et c'est pareil que le portefeuille.
Non, il y a trop.
Mais oui, mais parce que ça va être vachement plus simple. Alors, il y aura le correcteur d'orthographe qui applique la méthode classique, celui qui va faire la réforme et celui qui va accepter les deux. Ça va être un bordel extraordinaire.
Plus le lecteur qui le sait pas.
Et où ça va être génial, c'est pour les parents. Parce que alors, les parents.
Mais j'allais le dire,
ah, c'est
comment
magnifique.
On va faire, ça va être horrible.
Avant de corriger un gosse, vous devez vérifier si c'est le changer. Par exemple, si votre gosse, il oublie le chapeau à croître, eh ben, il faut dire c'est une faute, il faut un chapeau. Parce que dans la conjugaison, je crois, il faut un chapeau. Par contre, accroître, si le gosse oublie le chapeau, on lui dit rien parce que j'accrois n'est plus conjugué. Alors c'est fou ce que c'est plus simple. Alors là, ça... Attends, je vérifie si c'est dans la réforme avant de te corriger.
Et
ça
Alban,
va embêter tout le monde.
Alban, il y a une réforme des SMS aussi?
Je ne sais pas, mais au moins les SMS, on a beaucoup plus de liberté. Et vive les fautes, vive les.
Voilà. On avait un cure-dent. DENT et un cure-ongle GLES. Ouais. Bon, je dis, il faut arrêter le délire à un moment quelconque, quoi.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a vraiment aucune logique, Jean-Claude, dans ces orthographes-là différentes. Hein. On ne sait pas pourquoi, comment c'est né, d'où ça vient, etc.
Si, on sait d'où elles viennent.
Ah. Enfin, les rectifications sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire des rectifications. C'est pas une réforme. Ça ne concerne que 2% des mots.
Oui, mais que 2000 mots. Ça fait quand même 2000 mots. On va devoir vérifier s'ils ont changé ou pas.
Mais je suis pas sûr d'en avoir autant dans mon vocabulaire, hein, vous savez.
Mais au cours des siècles, il y a eu des réformes beaucoup plus sanglantes qui ont été imposées par l'Académie, alors que celle-ci n'est pas vraiment une réforme et elle n'est pas imposée.
Déjà, on est passé à un moment donné du latin au français. C'était une réforme, ça. Hein.
Sans remonter sur les 1000 ans d'existence de la langue française, ou quasiment, il y a eu des réformes qui ont été vraiment imposées. L'Académie, aujourd'hui, se défend de l'imposer et dit c'est l'usage. Bonjour, monsieur l'usage. Une fois que on sera présenté, on pourra discuter.
Mais alors, l'usage, je peux pas, moi, l'usage. Parce que, à ce moment-là, on va finir par dire on va au coiffeur ou on monte sur Paris parce que tout le monde dit ça.
Oui,
non,
mais vous avez raison.
Ça a duré,
comme ça que ça fonctionne. Oui,
hein.
L'usage, il est là. Il n'y a pas de code de conduite de l'orthographe. Ça n'existe pas. Il y a un code civil, un code pénal, mais il n'y a pas de code de l'orthographe.
Et attention que quand l'Académie a proposé des changements, c'était des changements qui étaient installés. Alors on dit toujours l'abbé d'Olivet en 1740, mais qu'est-ce qu'il a fait, Pépé? Il a constaté que les imprimeurs...
C'était un abbé
d'Olivet, un académicien, c'est le grand réformateur.
Il y en avait pour un quart des mots de la langue. Là.
Absolument. Ouais. Mais les imprimeurs, depuis 200 ans, mettaient des accents. Donc il a officialisé des choses qui étaient déjà pratiquement faites. Et en parenthèse, le coût de l'usage, ça me fait marrer parce que l'Académie en 1990, c'est pas eux qui ont fait la réforme, ils sont innocents, hein. C'était le gouvernement français et les Belges étaient obligés d'obéir, entre parenthèses. Mais l'Académie dit elle est soumise à l'épreuve du temps. Et puis on verra bien. À mon avis, j'étais persuadé que ça tomberait à l'eau. Attendez, ça fait 25 ans, il n'y a personne qui l'applique. Ben, l'épreuve du temps, elle a parlé. Allez, c'est fini, on parle autre chose.
C'est clair, mais ce qui est amusant, c'est que quand le ministre en a parlé, c'était un jeudi, je crois, donc tollé sur le net, etc. C'est parti dans tous les sens. Moi, j'ai envoyé mes petits messages pour dire que j'étais pour. Ça a bien tenu quand même deux bons jours. Hein. Et on a parlé d'autre chose et tout de suite sont réapparus les petits chats. Hein. Donc,
Alban, donc vous avez écrit avec maman ce roman, le premier roman rédigé en SMS.
Oui, avec des chats dedans en plus. Hein.
Avec des chats dedans, voilà. Avec des petits chats, avec des smileys et tout, avec
tout
mignon.
Tout le temps.
En fait, il écrit en midinette.
C'est moi.
C'est la midinette de l'émission.
C'est ça.
Moi, je trouve, alors je le disais tout à l'heure, et un peu comme vous, j'écris tous les mots, j'essaie de ne pas faire de fautes, etc. Mais je trouve que ce langage SMS utilisé par les plus jeunes, on fait un peu vieux con en disant ça, mais utilisé par les plus jeunes, je trouve que à la fois, on n'a jamais autant écrit qu'avec ces SMS. C'est vrai qu'on se remet à l'écriture, on se remet finalement à s'envoyer des lettres,
l'écriture verbale.
À faire de l'écriture verbale. Et à la fois, je trouve que ça appauvrit la langue française.
Disons que le langage SMS a cette particularité-là qu'elle doit être tout de suite dans l'information. C'est que l'information doit être là très vite disponible. Et en faisant ça, on perd plein de choses. Par exemple, comme l'intention qui a été recréée dans le SMS par le smiley. Parce qu'effectivement, quand on écrit rapidement, on n'a pas les émoticônes. Pardon, excusez-moi. voilà, il y a besoin
faut faire gaffe allemand.
Je reçois des petites décharges électriques à chaque fois. Personne ne le sait, mais c'est une torture d'être là. Mais donc voilà, donc il y a plein de choses qui sont passionnantes, qui sont de l'ordre du hors champ. Et finalement, avec le SMS, on est dans un autre langage qui pourrait paraître pauvre, qui peut être utilisé de manière très pauvre, mais qui est une matière littéraire à part entière, comme peut l'être certaines formes de théâtre.
Mais c'est vrai, vous avez raison. Sans les smileys,
oui.
Des émoticônes, excusez-moi,
oui,
Jean-Claude, Jean-Marc, sans ces émoticônes, c'est vrai que nos messages peuvent être mal interprétés. Moi,
exactement.
Ça m'est arrivé plein de fois de vouloir envoyer un message gentil, puis en fait, le truc est super mal pris et tout.
Ce qui fait que le SMS, qui paraît anodin comme ça, jugule différents modes d'expression. Donc, il y a le mode verbal d'écriture, il y a également le mode avec les émoticônes, il y a aussi le mode du non-dit, c'est-à-dire la façon dont on va répondre plus ou moins vite, les silence aussi, il y a des formes de silence dans les SMS. Donc ça paraît tout simple, mais finalement il y a toute une création autour de ça. Donc effectivement, on peut ne pas la voir, mais quand on s'y intéresse, c'est assez passionnant et on peut faire passer des choses très très fortes avec simplement des silences, trois petits points dans une réponse. Que ça, c'est déjà une réponse qui est beaucoup plus forte peut-être que des mots. C'est très différent et c'est passionnant de s'en amuser.
Oui, faut faire attention avec ces fameux trois petits points.
On est d'accord.
Parce qu'on l'a vu, ça peut prêter à confusion.
Et à propos de questions, à propos de smiley et d'émoticônes, justement, ça fait partie de ce qui est marqué dans la rectification. C'est quoi, par exemple, le pluriel d'un scénario ?
Des scénarii, normalement.
Et non, c'est des scénarios.
Des scénarios.
D'ailleurs, on a
et l'impresario, pareil.
Impressari.
Scénarii, c'est le pluriel italien de scénario. Mais à moins d'être italien de langue maternelle, on peut dire scénarii. Mais on doit dire scénario.
Les spaghetti au singulier.
Ah ben, spaghetto. Fini ton raviolo. Pourtant, on est déjà au pluriel dans ce cas-là.
Fini ton raviolo. Je vais dire ça à mes enfants. Tiens, des
soirs.
Je vais leur faire des raviolis. Je vais leur faire des raviolis rien que pour leur dire ça. Quoique, je ne suis pas sûre qu'ils aient besoin de moi, en fait, pour dire des âneries, mes enfants. Donc, je ne suis pas sûre. En tout cas, il y a plein de trucs. Alors, cette réforme de l'orthographe, ça va être compliqué aussi pour les professeurs. Jean-Marc, comment ça va se passer ? Est-ce qu'ils ont une formation de cette réforme de l'orthographe ?
Mon épouse est enseignante dans le primaire, professeur des écoles en CM2. Elle est aux premières lignes, aux premières loges.
Alors, il n'y a que le primaire, en plus, qui est concerné. C'est étonnant,
je,
ça.
Je crois que...
Dans les manuels scolaires, les manuels du secondaire ne sont pas adaptés.
Alors.
Il y a l'apparition du chapeau entre le primaire et le secondaire.
Alors rapidement, Jean-Marc,
Elle a reçu une espèce de petit fascicule qu'elle est censée faire appliquer. Et les enseignants entre eux ne sont pas d'accord.
Voilà. D'accord, bah ça va être formidable.
C'est parce qu'on a fait ça, en Belgique et les profs s'en sont moqués pour la plupart.
Eh ben moi, je vous réinvite tous à la rentrée scolaire pour qu'on en reparle de cette réforme de l'orthographe avec les enseignants. Mais c'est passé trop vite. J'ai pas vu l'heure passer. Vraiment, c'était super. Merci mille fois à vous tous d'avoir été avec moi. Donc merci à Thierry Braillère. Je rappelle votre nouveau roman, Le Rabot de Louis, 1768-2001. Ce n'est pas la date de naissance et de mort de Louis. C'est un C'est un roman qui raconte une saga familiale. C'est un super roman. Merci Alban Orsini. Alors vous êtes l'auteur de Avec Maman, le premier roman rédigé en SMS aux éditions Hugo et compagnie. Là aussi c'est très marrant, hein. Franchement moi j'ai bien rigolé. Jean-Marc Schreder, bravo et merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes administrateur de la DLF, Défense de la langue française. Et puis Bernard Fripien, alors vous avez écrit 99 trucs pour en rire et la retenir, l'orthographe bien sûr, chez Gunton, et vous avez une web-série qui est géniale pour apprendre justement à mémoriser les mots, ça s'appelle Orthogaffe. On met bien sûr tous les liens, tous vos livres sur le Facebook Sud Radio, c'est vous l'émission, et je vous dis à tout de suite sur Sud Radio. On continue à parler de vos enfants bien sûr, puisque c'est mercredi.